C'est la deuxième heure de ce 1282e numéro de Sweet Home Chicago. Et l'invité de la deuxième heure est Nicolas Dehé, musicien, rédacteur pour la presse spécialisée blues, amateur érudit de nos musiques chéries. Il est également guitariste au sein des Mockingbirds, un groupe nantais inspiré par le sud des USA, Texas et Louisiane en particulier, dont le chanteur Gaël Roule avait été interviewé fin 2022 pour la sortie de leur album précédent. Avec Nicolas Dehé, nous évoquons ses débuts de musicien en Normandie, puis à Nantes. Nous faisons le point sur la scène nantaise actuelle, l'opportunité de la création d'une blues society nantaise, l'aspect générationnel des musiciens qui sont actifs sur Nantes, comme par exemple Max Genouel ou Jacques Roland, la transmission de musicien à musicien pour faire perdurer le blues, et puis la composition du groupe The Mockingbirds, la genèse de leur tout dernier album, 8 titres, Swampy Tales, et puis les retours d'écoute encourageants qu'ils ont pu enregistrer auprès de leur entourage, comme Cédric Cobray, Thomas Troussier, Benoît Louboy ou les Doux de Doux. Voilà, on parle également du déclic de la composition pour le groupe dans le cadre du Montfort Blues Festival, de l'enregistrement chez Denis Agenais et de ses excellentes conditions qui y ont régné, et puis des projets avec notamment Greg Isor. Il y aura un message d'espoir en fin d'interview pour la musique live, et puis pour conclure, un message important pour parler du devenir de Soulbag, magazine fondé par Jacques Perrin en 1968 et dont la version papier disparaîtra après le numéro 260 de septembre 2025. Tout cela assaisonné bien sûr par des titres de Swampy Tales, l'album 2025 des Mockingbirds, avant de conclure avec tout à l'heure la référence du blues en Bretagne, le groupe Doux de Doux. Voici cette interview de Nicolas Dehé. Je suis au téléphone avec Nicolas Dehé. Bonjour Nicolas.
Bonjour Marc.
Comment ça va ?
Et ça va très bien.
Puis la dernière fois, alors on va situer pour les gens, Nicolas Dehé, la dernière fois que tu es intervenu à l'antenne dans Sweet Home Chicago, c'était pour parler d'un garçon qui s'appelait Rory Gallagher. Tu te souviens de ce My Rockers que tu nous avais offert ?
C'est bien ça, il y a un an et demi ou deux.
Ouais, il y a déjà un petit moment. Et puis pour situer encore, tu es guitariste dans un groupe qui s'appelle les Mockingbirds sur la région de Nantes. Et la dernière fois qu'on a parlé de ce groupe à l'antenne, en tout cas pour l'interview, c'était pas toi, c'était Gaël Roule qui Ruquier, oui, harmoniciste et chanteur du groupe. On avait fait l'interview de Gaël le 5 novembre 2022, quelques mois après la sortie de votre premier album au Mockingbird, Mohair Soul. C'est bien ça ?
C'est bien ça, exactement.
Et voilà. Et là, en ce moment, il y a un nouvel album qui sort, qui s'appelle Swampy Tears, donc trois petites années après le précédent. C'est bien le deuxième album des Mockingbirds.
C'est le deuxième album des Mockingbirds.
Voilà, un album qui contient 8 titres dont on va parler aujourd'hui. Mais peut-être commencer, Nicolas, par quelques petites questions perso, concernant notamment ton parcours, parce que la dernière fois, c'était Gaël qui s'y collait. Et puis là, Nicolas, on va peut-être évoquer aussi ta relation avec la musique, avec la guitare, et puis aussi la plume, parce que tu écrivais dans Blues Magazine, tu écris dans Soul Bag, c'est bien toujours bon.
Ouais, j'ai commencé même avec L'Oreille Bleue.
L'Oreille Bleue,
région rouennaise.
Il y a déjà un bon moment, L'Oreille Bleue, qui existe depuis début du siècle. Ta passion de la musique, ça remonte peut-être à la fin du siècle dernier, je ne sais pas, Nicolas.
Oui, à l'enfance. Enfin, depuis l'enfance, depuis tout petit, effectivement, pas mal immergé dans la musique, comme beaucoup de ma génération. J'espère comme beaucoup des générations actuelles aussi. Je me suis mis à la guitare quand j'avais 14-15 ans.
Donc, comme ceux qui sont nés entre 75 et 85, 90 à peu près.
C'est ça. Mmh. Ah oui, je suis de 79, donc en plein dedans.
Dans la tranche d'âge.
En pleine adolescence, effectivement. Ça ne m'a jamais quitté l'habitude de jouer en groupe, sur Nantes, en Normandie, quand j'ai vécu en Normandie.
Quel endroit en Normandie, Nicolas ?
Dans l'Eure, à côté de Bernay, dans la région de Bernay, entre Évreux et Lisieux.
Je me souviens plus si on avait eu l'occasion d'en parler, mais on a peut-être un ami commun, Pascal Fouquet, qui vient de Bernay, précisément, qui jouait dans les Oudoumens et qui joue maintenant avec Little Red on the Rooster, ça te parle ?
Oui, effectivement, bien sûr.
Voilà, il est de Bernay, le garçon aussi.
Absolument.
Tu es depuis plusieurs années sur Nantes, Nicolas, et je voulais savoir, prendre un petit peu le pouls, comme ça, de la scène nantaise. Est-ce qu'elle est toujours aussi foisonnante, toujours aussi vivace, qu'il y a toujours autant d'endroits pour jouer à Nantes ?
Oui, alors les endroits, ça a tendance un peu, comme partout ailleurs, je pense, à se restreindre. Ouais. Par contre, il y a une scène locale, vous voyez, qui est très vivace, en blues, en soul, et même sur d'autres genres musicaux, en jazz également, avec, fatalement, quand la scène est active, ça a souvent tendance à entraîner un mouvement. Du coup, il y a pas mal de musiciens qui sont installés aussi dans les 10-15 dernières années sur Nantes, qui n'étaient pas nécessairement originaires de la région et qui ont aussi amené leur culture musicale, leur profil.
Je crois savoir de qui tu parles, Nicolas. Il ne s'agirait pas des gens qui faisaient partie d'un groupe de Caen qui s'appelait les Spoonful, avec par exemple Igor Pichon, Gilles Delagrange, Nicolas Maï.
Par exemple. Je pense à ces gens-là, je pense à Thomas Troussier aussi, transfuge normand.
Évidemment.
Et puis des transfuges plus proches géographiquement de la scène rennaise, Max Genouel.
Voilà.
Il est originaire de Rennes. Et puis également à des musiciens du sud-ouest, des Bordelais, des Béarnais, Fabrice Bessouat pendant très longtemps, même s'il est plus sur Nantes maintenant, Julien Dubois.
C'est ça, l'axe atlantique est aspiré par la ville de Nantes qui semble être
le mur de l'Atlantique.
Exactement, plus attractif que les autres grandes villes. En tout cas, à Rennes, il continue d'y avoir de la musique, mais c'est vrai, peut-être moins qu'avant. À Caen, c'est pareil, c'est pas en sommeil non plus, mais ça n'est pas ce que c'était il y a 20 ans. Et en tout cas, sur Nantes, tu disais peut-être moins d'endroits pour jouer, mais en tout cas, toujours autant de talents et des gens qui se regroupent, c'est très très bien.
Ouais.
J'ai une question pour toi. Est-ce que toi qui agis dans le domaine du blues nantais depuis des années, est-ce que tu penses pas qu'il serait bon qu'à un moment donné, tous ces acteurs-là se réunissent, par exemple, sous la bannière d'une blues society ?
Oui. Mais alors après, il y a aussi du mouvement, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des musiciens qui ont été sur Nantes pendant un temps et puis qui bougent ensuite, qui vont dans d'autres villes parce que leur parcours personnel ou musical les mène ailleurs. Donc oui, pourquoi pas, mais faut pas que ça entrave la mobilité non plus des musiciens.
Tout à fait, très bonne réponse. Mais écoute, puisque tu bottes en touche, on va tout de suite marquer un essai, il n'y a pas de problème. Non mais voilà, c'est vrai que ça reste un serpent de mer. C'est une question que je pose parfois dans les interviews par rapport aux acteurs du blues français. Il y a une blues society à Toulouse, c'est la seule qui constitue une ville, on va dire même une région bien sûr, avec la région de Pau et puis peut-être tout le sud-ouest, Bordeaux excepté. Et puis il y a l'association France Blues bien sûr, mais il devrait y avoir quelque chose sur Bordeaux, sur Nantes, sur Clermont-Ferrand, je ne sais pas.
Hein. Ouais, mais alors moi peut-être au-delà de ça, ce qui m'interpelle un peu ou peut-être ce qui me, ça va pas jusqu'à l'inquiétude, mais c'est de pas voir nécessairement une nouvelle génération émerger. En tout cas sur Nantes. Il y a eu une génération, celle qui est née au début des années 90, qui est incarnée par des gens comme Max dont on parlait, des gens comme Jacques Roland de Jacques and the Jacks.
Ah, tu parles de l'année de naissance.
Des années de naissance.
Okay.
Et donc il y a cette génération formation-là, effectivement, qui a émergé. Je pense, c'est pareil, sur Bordeaux, des Alexis Evans, Bastien Cabezon, Thibaut Ripaud, voilà, qui font partie vraiment de cette génération-là. Des acteurs nés entre 90 et 93, 94, 95. Mais depuis, des musiciens qui sont nés au début de notre siècle, finalement, on n'en voit pas sortir, on n'en voit pas émerger. Et ça, c'est un peu... ça questionne, effectivement, alors que l'accès à la musique est toujours plus démocratisé. On pourrait penser que une nouvelle scène blues, qu'un nouvel élan arrive. Et non, là, on est, on voit pas ça arriver. Mais bon, il suffit d'un déclic pour que les choses se mettent en...
suffit peut-être d'une étincelle venant peut-être de l'extérieur, d'ailleurs, ou pourquoi pas. Oui, et peut-être aussi chez... Je sais que certains artistes nantais sont également profs de guitare, par exemple. Et il y a aussi quand même des élèves qui ont 14-15 ans maintenant et qui, pourquoi pas, pourraient reprendre le flambeau dans les années à venir.
Absolument. C'est aussi quelque chose qu'on peut espérer par la transmission, de toute façon.
C'est ça.
Quoi qu'on en dise, même si on a Spotify, Deezer, YouTube, tout un tas d'éléments à portée de main, mais la transmission de musicien à musicien, c'est quand même ce qui reste le mieux pour faire passer la flamme et puis le virus.
Bien évidemment. Nicolas D, donc guitariste et également choriste du groupe Les Mockingbirds, d'ailleurs tous les groupes...
Oui, alors lointainement choriste, oui.
Mais j'allais dire, dans le groupe, tout le monde chante quand même, tout le monde est choriste. Vous êtes 5, mais tout le monde chante.
Oui, alors là, pour l'album, effectivement, on a tous apporté une petite contribution, certains plus que d'autres. Je pense en particulier à Pierre Dubigny, qui est aussi guitariste dans le groupe, et à Cyril Durand, qui eux ont apporté une contribution un peu plus importante sur les chœurs. Mais on a tous contribué, au moins sur un titre, effectivement, au chœur, et en concert. C'est essentiellement Cyril et Pierre qui effectivement assurent ces parties-là.
Alors on va parler en détail de cet album qui contient 8 titres, mais auparavant on va peut-être évoquer ce groupe Mockingbirds. Je voulais savoir, la création du groupe remonte à quand, pourquoi, qui au départ, est-ce que ce sont les mêmes musiciens?
Oui, alors la création du groupe, c'est intéressant que tu m'en parles, puisque en fait le groupe fait là, c'est 10 années d'existence.
Voilà.
Les deux initiateurs, les membres fondateurs du groupe, ce sont Gaël au chant et à l'harmonica et Pierre qui est guitariste. Gaël et Pierre avaient tous les deux une aventure... étranger. L'un, effectivement, a vécu au Mexique pendant longtemps, et pour Pierrot, outre-mer, c'était à La Réunion, et ils sont rentrés en métropole à peu près au même moment, et ils se sont retrouvés, comme ça, à jouer tous les deux ensemble, et progressivement à fonder un groupe. Il y a eu un certain nombre de changements au niveau des sections rythmiques, et le groupe est stabilisé vraiment depuis, dans la forme qu'on lui connaît actuellement, depuis 4 ans, depuis 4-5 ans. Voilà, Yann Renoul est arrivé en tant que bassiste en 2018, moi je suis arrivé en décembre 2019 à la guitare, et Cyril, c'est le dernier à être arrivé en septembre 2020.
Voilà, et puis tu évoquais donc notamment ces voyages faits par les deux compères qui ont fondé le groupe, et ça n'est pas sans aller sur l'influence musicale et puis on va dire même la teinte et l'atmosphère de votre musique, on va en parler. Je voulais te poser une question peut-être de béotien, qu'est-ce que le blues texano-louisianais, Nicolas?
Le blues texano-louisianais, c'est assez simplement le blues de la région des deux états que sont la Louisiane et le Texas, plus largement du golfe du Mexique, avec effectivement un certain nombre d'influences. Alors, côté texan, il peut y avoir des influences Tex-Mex, qu'on retrouve peut-être un peu dans certains titres de l'album. Et côté louisianais, ce fameux swamp de la région, de la partie sud du Texas notamment, frontalière d'ailleurs avec le Texas, qui est caractérisé par cette espèce d'économie de moyens, d'économie d'artifice, pour avoir quelque chose qui est très, alors les Américains diraient lazy, mais un côté un peu paresseux, ça fonctionne pas en...
Non, c'est vrai, mais lazy, on a bien compris, effectivement, voit très bien. Eh bien, on imagine, Lightning Hopkins en train de buffer avec un garçon comme Clifton Cheney, par exemple.
Oui, on imagine ça, Lightning Hopkins avec Lightning Slim, avec Slim Harpo. Oui, on imagine la chose assez aisément faisable, oui.
Les influences du groupe, est-ce que vous écoutez tous les mêmes artistes? Gaël Roule, Pierre Dubigny, Nicolas Dé, Yann Renoul, Cyril Durand, vous venez tous d'horizons différents, mais est-ce que vous écoutez les mêmes artistes en partie en tout cas?
Alors c'est vrai que le groupe n'a pas toujours été sur cette teinte-là texano-louisianaise ou swamp. C'est quelque chose qui s'est fait progressivement. L'initiateur en la matière, c'est vraiment Gaël, de par son parcours personnel, de par son appétence, de par ses goûts, qui s'est vraiment intéressé à toute la dimension swamp du blues, de manière culturelle aussi. Il avait des vinyles de Slim Harpo chez lui. Son père avait des vinyles de Slim Harpo.
Ça, c'est pas banal.
Et du coup, il a vraiment amené cette teinte en conformité aussi, je pense, avec sa façon de chanter. Et je pense sa manière aussi d'aborder et de penser l'harmonica, très loin d'une approche virtuose.
Ou académique.
Ou académique. Et justement, avec cette fameuse économie de moyens, cette économie d'artifice que j'évoquais un petit peu plus tôt.
Ouais.
Et fatalement, les choses étant relativement bien faites, Yann Renoul, qui est le bassiste du groupe et qui a intégré le groupe en 2018, lui, c'est un vrai connaisseur de toutes ces musiques-là, c'est un vrai connaisseur de la scène louisianaise, des musiques de Louisiane. Fatalement, ça a permis d'entraîner encore plus le groupe dans cette dimension-là et d'aller vers le swamp. C'était un peu l'objet de notre premier album, qui était un album uniquement fait de reprises et qui était un très modeste hommage, mais qui était notre modeste hommage à tous ces artistes auxquels chacun a été amené à s'intéresser en intégrant le groupe au fur et à mesure. Et voilà, après, de fil en aiguille, on a fait évoluer notre musique, mais toujours en gardant quand même cette couleur, cette identité swamp texano-louisianais.
Voilà, pour revenir à ce fameux blues texano-louisianais que je te demandais de nous décortiquer, tu l'as fait de fort belle manière, Nicolas. Je posais cette question, mais j'aurais pu résumer, par exemple, en parlant d'une fête qui existe depuis la nuit des temps, je crois, sur la Nouvelle-Orléans, qui s'appelle la fête de la crevette et du pétrole. J'avais découvert ça il y a quelques années, et c'est vrai que ça résume bien les deux états, finalement.
Ouais.
Ah, et donc, voilà, la Louisiane, le Texas, mais il y a également des choses un petit peu plus au sud. Alors, tu parlais du Mexique tout à l'heure, mais on retrouve également la Jamaïque, avec un morceau que vous reprenez, un répertoire d'un garçon que j'avoue ne connaissais pas auparavant, qui s'appelait Théophilus Beckford. Comment est-ce que vous avez découvert ce garçon, Nicolas?
Alors Théophilus Beckford, on est vraiment dans cette scène jamaïcaine du rocksteady, c'est-à-dire concrètement du rhythm and blues à la mode jamaïcaine en fait. C'est Gaël qui s'est penché sur cette dimension-là. Gaël est très très initiateur en fait dans le répertoire, dans les influences, dans la couleur qui est donnée à la musique, parce que effectivement, ça c'est quelque chose qui est intéressant, beaucoup des choix qui sont faits en matière de morceaux, de titres que l'on va reprendre ou même de composition. Gaël en est l'initiateur parce que je pense qu'il est très attaché, aussi bien au niveau du sens que de l'esthétique, il est très attaché au fait de chanter des choses qu'il se sent vraiment de chanter.
Ouais.
Et non pas de s'imposer quelque chose qu'il ne se sentirait pas de faire. Je pense que c'est très important, cette démarche qu'il fait, d'accorder du sens aux paroles qu'il chante et à l'esthétique. Et donc, là, il a trouvé dans ce titre-là quelque chose qui lui parlait, qui était évocateur pour lui, même si les paroles sont... C'est une comptine, en fait, au départ.
Ça s'appelle Jack and Jill Shuffle, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Et même si les paroles sont pas extraordinaires ou extraordinairement évocatrices, il s'est retrouvé dans le phrasé, dans le flow, dans la manière de chanter, et ça l'a inspiré.
Ce que je te propose, Nicolas, c'est que pour les trois reprises que vous faites dans ce 8 titres des Mockingbirds, donc qui s'appelle Swampy Tales, c'est qu'on écoute un tout petit bout de l'intro qui correspond à la version originale, et puis qu'ensuite on aille sur votre version à vous. Ça te va?
Ouais.
Ça s'appelle Jack and Jill Shuffle, et c'est signé Théophilus Beckford. Le voici. Voilà, et on part sur une grille complète en instrumental avec un tempo même pas médium, un tempo relativement lent. Et voici la version des Mockingbirds. Qui est nettement plus enlevée, on est d'accord?
Oui, qui est plus swing. On a peut-être pas réussi à lui donner exactement la couleur qu'on voulait lui donner, mais c'est le principe et c'est la vertu des enregistrements. C'est que une fois qu'on a validé un morceau et qu'on a décidé de le graver, il est gravé ad vitam aeternam.
Oui.
Mais derrière, ça permet aussi une réflexion sur la manière de le jouer, et notamment en concert. Et on l'a la façon qu'on a eu de l'enregistrer a fait bouger du coup notre façon de le jouer maintenant.
Oui, parce que c'était un morceau que vous aviez déjà rodé sur scène. C'est le cas des autres titres ou pas?
Alors, on pourra revenir sur la jeunesse de l'album parce qu'elle est un peu
complètement
particulière.
Complètement.
Et donc, il y a des morceaux, les morceaux ont été plus ou moins rodés selon le temps, leur moment d'enregistrement. Il y a un lien. Je remonte à la sortie de Moher Sol en
2022.
Au printemps 2022. On a été assez étonné de l'accueil. C'est sorti en catimini, évidemment, ça a été assez anonyme, mais on avait quand même pas mal arrosé auprès des médias médias spécialisés qu'on connaissait auprès d'un certain nombre de clubs ou de scènes en France. Et on a été vraiment assez agréablement surpris par l'accueil qui était fait et par le fait, quelque chose qui était assez récurrent dans les retours qu'on avait, c'est personne ne joue ça en France ou très peu de gens jouent ça en France. C'est génial, votre répertoire, c'est super, d'aller chercher du Lazy Lester, du Clifton Chenier.
Et j'allais dire, pour ajouter à ce que tu es en train de dire, également avec le chant de Gaël Roule, qui lui est complètement atypique et qui ne correspond absolument pas au canon qu'on peut se faire de ces styles-là. En tous les cas, une voix qu'on n'entend pas en France. Enfin, en tout cas, c'est une signature vocale, vraiment.
C'est ça, voilà, avec une signature vocale. Et donc, on a eu plein de retours très positifs, des retours de musiciens locaux, quelqu'un comme Thomas Troussier, qui était assez dithyrambique, des gens, alors Benoît Blueboy, qui est un grand connaisseur de la Louisiane et des musiques louisianaises, là, pour le coup aussi, et qui m'avait fait deux, trois petits retours épistolaires très sympathiques, et même un retour au téléphone pour m'en parler directement, donc c'était quand même assez intimidant.
Benoît, si tu nous écoutes, salut à toi, et respect, toujours, bien sûr.
Et voilà, les frères Lebaille de Douzedou aussi, voilà, qui avaient aidé Léon Emen, qui avait fait un retour assez dithyrambique, et puis on sera peut-être amené à en reparler aussi, Greg Isor, qui est vraiment quelqu'un qui nous influence beaucoup, donc qui est un harmoniciste, chanteur et guitariste aussi américain, qui a vécu, qui a appris aux côtés de Johnny Sampson du côté de la Nouvelle-Orléans, qui a vécu ensuite 10 ans à Austin et qui maintenant est installé à Madrid. Et moi, j'ai eu l'occasion de le voir sur Nantes dans un petit bar, le Buck Mulligan's à Nantes. On était, je sais pas moi, une quinzaine de personnes, un soir de décembre en 2021. Ça a été une révélation, ça a été vraiment un vrai marqueur, et Gaël était avec moi ce soir-là, et c'est pareil, on a été assez... Il produisait avec une équipe qui était un peu inhabituelle pour lui, enfin, Godevierce à la batterie, Mick Tocro à la basse, et Mathieu Van Der Scheid à la guitare.
Ah oui, donc des Bordelais. Hugo Devier qui fait partie de l'album, d'ailleurs, qui joue des percussions sur un titre.
Ouais, exactement. Et donc, au moment de la sortie, pour reprendre le propos initial, au moment de la sortie de Mother Soul, effectivement, c'est ces retours qui étaient assez positifs, dont un retour qui nous a mis un peu la puce à l'oreille, parce qu'on n'avait pas nécessairement dans l'ambition de se lancer dans les compositions, qui est le retour de Cédric Cobray, donc qui est l'un des coprogrammateurs du Montfort Blues Festival.
Oui, avec Nico Sturma.
Voilà, et Cédric qui nous dit ben, les gars, c'est bien, il y a vraiment des choses qui marchent bien sur votre album. Et donc il avait proposé, et on s'était retrouvé à cette occasion-là, de nous programmer dans le cadre du off du festival de Montfort, concert auquel tu avais assisté en novembre 2023. Ouais. Et dans les retours que Cédric m'avait fait, il m'avait dit, par contre, si vous voulez un jour jouer sur la scène du Montfort Blues Festival dans le cadre du festival à proprement parler et non pas dans le cadre du off, va falloir se mettre à composer. Et là, ça agit comme un déclic, en fait. Donc je remercie Cédric. On s'était jamais vraiment dit, on va se mettre à composer. On n'avait jamais pensé spécialement à cette démarche.
D'accord.
Et on s'est penché sur la chose avec Gaël, notamment avec Gaël et Pierrot. Et puis, on a eu deux titres qui sont sur l'album, Dedicated Swampy Tail et 21st Century Bossy Boots, qui sont deux titres de l'album.
Declared unfit for the job.
avec ces deux titres, on s'est dit on va rentrer en studio. On avait de toute façon dans l'idée de rentrer en studio et on avait dans l'idée d'enregistrer avec Denis Agenais qui habite à côté de Clisson, dans le sud-est du département. Pourquoi Denis? Parce que il a une très bonne connaissance lui aussi de toute cette musique-là. Il a du super matos et puis il a une oreille et une expertise qui sont vraiment très intéressantes. Et on était parti dans l'idée de faire initialement un 5 titres. C'était vraiment notre plan initial. Et on enregistre donc 5 titres au mois de janvier 2024. Voilà, le mix se fait. On était vraiment parti sur cette idée d'un EP. On réécoute les morceaux et l'un des morceaux qui se trouvait être une composition, en l'occurrence Dedicated to Sumpy Tate, ne sonnait absolument pas. Enfin, en tout cas, on n'était pas du tout convaincus. Donc, on s'est retrouvé en se disant, non, on va pas sortir à 4 titres avec 3 reprises et seulement une compo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder cette session et puis on va en faire une deuxième. Et on a fixé rapidement une autre date. On a dit, on se retrouve en octobre 2024, même endroit, même personnel. Et puis, on rajoute 4 titres et comme ça, on aura un 8 titres. On fera un album complet plutôt que de faire une sortie d'EP. Et voilà, c'est la jeunesse de l'album.
On va revenir sur ces deux autres compositions, Nicolas, si tu veux bien, et puis peut-être adopter le même principe pour ce I'm Coming Home que vous empruntez au répertoire de Clifton Chenier. Voici la version originale. Là, on est dans le fait dodo, on est d'accord?
Oui, complètement.
Alors, accordéon, Zydeco, voilà, Clifton Chenier, donc on ne le présente plus. Tu as peut-être déjà, sinon vu Clifton Chenier, peut-être pas, parce qu'il est décédé il y a longtemps, mais peut-être son neveu, Clifton Joseph C.J. Chenier.
Par contre, j'ai des albums de C.J. Chenier.
Ouais. Et ensuite, ça va être la version donc des Mockingbirds, voilà le morceau. À votre sauce. Donc là, bien sûr, l'accordéon est remplacé par l'harmonica.
Oui, c'est ça.
Et on est sur le tempo quasiment identique. Je pourrais presque passer deux mêmes morceaux ensemble.
Oui. Ouais.
Même tonalité également.
Ouais.
Donc tu parlais tout à l'heure de l'adaptation du répertoire à Gaël pour quelque chose qui lui colle tout à fait. Et là, on s'aperçoit que ni le tempo, ni la tonalité n'ont changé entre la version originale de Clifton Chenier et celle des Mockingbirds.
Bah oui, il y a des fois des choses, des points convergent. Et voilà. Là, c'est le cas, oui.
Voilà, on aura l'occasion d'écouter, bien sûr, tous ces titres-là dans les prochains Sweet Home Chicago. Et immédiatement, on va passer à la troisième et dernière reprise. Alors là encore, un artiste, quand je dis là encore, c'est pas pour Clifton Chenier, mais pour le précédent, Theophilus Beckford, Charles Sheffield, un garçon que je ne connaissais pas. Donc merci de me faire découvrir ce genre d'artiste. Et voici la version de It's Your Body Walking. Là, on est chez Excello Records.
Ouais.
And my head's eyes cold. My sugar tastes sour. My salt tastes sweet. I wanna lay down, but I just can't sleep.
Alors ce qui est assez exceptionnel avec ce genre de titre, c'est déjà la durée. Il fait 1:47. Enfin, c'est un truc qu'on fait plus du tout de nos jours, les morceaux de moins de 2 minutes. Et voici la version des Mockingbirds. Alors une tonalité un petit peu rehaussée.
Oui. D'un demi-ton, je pense.
Ouais. Et la voix de Gaël roule. Alors moi, je sais pas pourquoi ça m'a rappelé un morceau des Fabulous Thunderbirds. Je sais pas si toi tu fais le rapprochement également. En tout cas, c'est pas tout à fait inconnu ce type de morceau quand même.
Non, c'est pas inconnu. Alors il y a aussi le traitement qui a été fait là pour le coup par Denis, puisque sur ma guitare il a mis un. Moi j'ai enregistré ma guitare direct dans un ampli et Denis a retraité le son en mettant un comme si la guitare était passée dans une cabine Leslie.
Ah oui, d'accord.
Leslie, c'est ce qu'on retrouve avec les organes. Ouais. Et c'est des procédés qu'on retrouvait. Jimmy Vaughan et son frère d'ailleurs Stevie Ray faisaient pas mal ce genre de choses dans le traitement du son de leur guitare.
Ouais.
C'est assez texan, effectivement, comme approche. Et c'est marrant parce que tu parlais de Charles Sheffield, là, If You Voodoo Working. Effectivement, Charles Sheffield, c'est pas un artiste qui a laissé, en tout cas, c'est un artiste qui est, je pense, assez
confidentiel.
Et assez confidentiel, oui, plus qu'inconnu. En revanche, If You Voodoo Working, quand on gratte un peu, c'est un morceau qui a été pas mal repris. Alors, à la mesure de ce que ça peut être repris, mais ça a été quand même pas mal repris. Et notamment, il y a eu une version assez désastreuse, que t'étais peut-être tombé là-dessus, là, fait par l'intelligence artificielle.
Ah non, du tout, pas encore, non.
Chanté par Junior Orwell, un truc qui est sorti il y a 2-3 ans, ouais.
Non, ben, j'ai été épargné de ça.
Ouais, oui, bah, tant mieux.
Les Mockingbirds, donc, avec cet album qui s'appelle Swampy Tales, autrement dit, les histoires de marécage, les histoires de bayou.
Ouais, c'est ça.
Hein, ouais. 8 titres en 2025, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, c'est le format. Qu'est-ce qu'il faut faire actuellement? On sait plus trop. Hein. Est-ce qu'il faut travailler uniquement des MP3 les uns après les autres et puis les mettre sur Spotify, ou est-ce que continuer à faire des albums? En tout cas, vous avez choisi un format un peu hybride. On n'est plus dans le mini CD, mais on n'est pas non plus dans le CD complet. Pourquoi ne pas avoir attendu peut-être d'en faire 10 ou 11?
Parce que des deux sessions, c'était déjà beaucoup de travail.
Ouais.
Et parce que on s'est dit un peu peut-être de manière arbitraire, mais on s'est dit voilà.
Ça va comme ça.
Ouais. Et puis en fait, un LP peut commencer à partir de 8 titres.
Tout à fait.
On a dans l'ambition de le sortir, de faire peut-être une parution vinyle dans l'année ou en début d'année prochaine. Ça fera pas un très long vinyle, mais en tout cas, ça ferait quelque chose qui est cohérent avec deux phases de 4. Ça fonctionne. Bon, on s'est pas trop posé la question du format, à vrai dire. Hein. Le fait est que, comme je l'expliquais, cette histoire un peu avortée qui a donné
la jeunesse de la langue. À ce stade de l'interview, Nicolas, je peux te proposer une question piège. Est-ce que tu prends ou est-ce que tu laisses?
Je prends.
Tu sais que tu aimes vivre dangereusement, je te le dis quand même. Alors la question, tu vas être obligé d'y répondre du coup, maintenant il n'y a plus de joker.
Oui,
Nicolas, tu es le guitariste des Mockingbirds.
Oui.
Si tu devais être le guitariste d'un autre groupe français, ça serait lequel? Et là j'ai toute une liste à te proposer, écoute bien.
Oui.
Blues Organ Combo, les Freaky Buds, Douze Doux, les Lazy Buddies, Lowland Brothers, Malted Milk, Benoît Blue Boy, Frank Goldwasser ou Jules.
Oh, c'est dur.
C'est trop dur. Alors, tu peux procéder par élimination si tu veux aussi. Hein.
Non, c'est pas trop dur. Douze Doux.
Eh ben, on n'hésite pas, voilà, sur les frères jazz, Douze Doux, effectivement, un groupe qui existe.
Ouais, alors, mais par contre, je suis désolé pour mon ami Guillaume Veillet d'avance, parce que c'est lui le guitariste des Douze Doux.
Et on aurait pu prendre les Bean Shakers aussi, du coup.
Ouais. Ouais, Douze Doux, je pense que par rapport à ma culture et puis peut-être ce que j'aime jouer, ouais, c'est ce qui correspond le mieux.
Ouais, en tout cas, je pense que les Douze Doux sont peut-être le groupe le plus adoubé par Benoît Blue Boy en France et depuis longtemps il me semble. Hein.
Ouais.
Donc,
mais bon, tous les groupes que tu as proposés
sauf un
vont très bien, sauf un.
Voilà. On laissera les auditeurs deviner.
Ouais.
Voilà, l'album s'appelle Swampy Tales, il est signé des Mockingbirds. Nicolas Dé en est le guitariste, et également Gaël Roule au chant et à l'harmonica, Pierre Dubigny à l'autre guitare, Yann Renaud à la basse, Cyril Durand à la batterie. Et il y a quelques invités sur ce disque qu'on évoquait tout à l'heure, Hugo Devier aux percussions, François Nicolo à la pédale style qu'on entend sur deux titres, et puis au washboard et au chœur sur Voodoo Working, monsieur Denis Agenais. Alors, est-ce que c'est Denis qui a été l'ingénieur du son de ce disque?
Ah oui, Denis il a une grosse part dans la construction effectivement de ces deux sessions. Il a vraiment fait un très très gros travail et dans la prise de son et dans le traitement derrière du son et dans l'esthétique globale de l'album. Voilà, avec un très très gros travail. Ce qu'on a beaucoup aimé, il a été aussi force de proposition sur plein de choses. Voilà, il nous a accompagné sur plein de choses. Il a une très grosse expérience, une très grosse connaissance du son, très grosse connaissance musicale par rapport au genre et au style qui nous intéresse. Et du coup, il a une part vraiment déterminante dans la construction de l'album. En fait, le lieu d'enregistrement chez lui, c'est vraiment un lieu en plus qui a beaucoup de cachet, beaucoup de charme, et puis surtout le son est très bon. Il est très bon avec vraiment un beau son de pièce, et donc ça a été très confortable. It's your voodoo working.
got my eyes out, so it's your voodoo working. It's your voodoo working. It's your voodoo working. A voodoo working, I can't get a little.
Ça, c'est important aussi de pouvoir enregistrer dans de très bonnes conditions. Ça avait été le cas pour quelques autres interviewés précédemment. Et ça fait partie aussi des choix, en tout cas, que font les artistes. Je pense par exemple à Rod Barthé, hein, qui a enregistré à la campagne et qui en est plus que content. Parce que c'est pas seulement la salle en elle-même et puis les conditions d'enregistrement, c'est aussi l'environnement immédiat. Parce qu'on ne fait pas qu'enregistrer toute la journée. On peut aussi prendre une pause, aller dehors. Ouais. Et puis si on peut faire un kilomètre dans la forêt, c'est pas plus mal.
Ouais. Parfois. Oh, bah, oui, oui, c'est ça. Et puis vraiment, le fait de se sentir décontracté, c'est vraiment assez important. Voilà. Quand on enregistre, pouvoir être à la fois très concentré et dans le même temps très détendu, parce qu'on sait très bien, ça se passe je pense pour beaucoup de musiciens de la même manière, dès qu'on appuie sur le bouton record, voilà, il y a une tension qui s'installe nécessairement.
Oui, mais il faut aussi qu'il y ait de la détente, hein. En blues, voilà. Il faut tension et détente, il faut les deux.
Et c'est ça, il faut les deux, exactement. Et Denis aussi, sur It's You Go The Working, on lui a proposé de coller du washboard, il ne l'a pas enregistré en même temps que nous, il l'a enregistré en overdub, donc à la suite de la première session. Ça aussi, c'est vraiment c'est ce qu'on a beaucoup apprécié avec Denis, c'est qu'il a toujours été en capacité ensuite de nous faire plusieurs propositions par rapport à l'esthétique qu'on voulait, en nous disant je vous envoie la version avec washboard, sans washboard, en mettant le washboard de cette manière ou en mettant le washboard de cette manière, et du coup ça nous permettait de nous faire des choix, et quelquefois il a été aussi amené à trancher, et c'était vraiment très 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 formateur et très intéressant.
Si Nicolas, vous deviez travailler avec un ingé son pour une grosse boîte, on va dire un gros label, que ce soit français, européen ou américain, et en tout cas si vous deviez travailler dans les conditions encore plus professionnelles que celles-là, est-ce que tu penses que l'album aurait été plus réussi que ça ?
Alors là, j'en sais strictement rien. ce que je pense, c'est que... Enfin, moi, je l'envisage comme ça, c'est que chaque session d'enregistrement, aucun de nous n'est professionnel, c'est pas notre métier, on bosse tous à côté. Mmh. Chaque session d'enregistrement est pour nous l'occasion d'emmagasiner une expérience supplémentaire, de se frotter à un niveau d'exigence supplémentaire. Et j'ai été l'initiateur, en l'occurrence ici, de dire, pour ce second opus, il faut qu'on bosse avec Denis. J'ai pas eu trop de mal à convaincre mes camarades de jeu, et je pense que Denis, à ce moment-là de la vie du groupe, c'était la personne idoine. Donc je suis bien en peine de répondre à ta question.
Oui,
et de savoir.
Je vois très bien ce que tu veux dire. Oui. Et puis je pense que les auditeurs également. Franchement, Nicolas, vous êtes satisfait du résultat. En tout cas, c'est ça qui transparaît, que peut-être.
On est satisfait du résultat parce qu'en fait, Denis a eu aussi ces mots-là. On obtient ce qu'on entendait dans notre tête, c'est-à-dire qu'on est sur un résultat qui est conforme à ce qu'on voulait faire. Alors évidemment, il y aurait 10 000 choses à retravailler, il y aurait 10 000 choses qu'on pourrait refaire, et plus le temps va passer, plus on se dira certainement, tiens, là, on aurait bien fait ci, tiens, là, on aurait bien fait ça. Mmh. Mais en tout cas, c'est l'album qu'on avait en tête.
Donc pas de regret.
Le résultat est relativement conforme avec ce qu'on avait en tête.
Voilà, donc pas de regret, effectivement. Cet album des Mockingbirds s'appelle Swampy Tales. On en a déjà écouté plusieurs extraits depuis le début de cette interview. Nicolas, tu disais tout à l'heure, on va peut-être en reparler après, et j'ai pris la liberté de noter ça. Greg Isor, est-ce que c'est un garçon qui va avoir à cœur d'agir dans l'histoire des Mockingbirds par une collaboration quelconque ?
Ah oui, ça fait partie de nos rêves pour le moment, mais il y a des choses qui pourraient quand même aboutir.
D'accord.
Je pense. Après, il faudra que les planètes s'alignent à un moment donné, que les agendas s'alignent à un moment donné. Mais l'objectif, c'est de travailler sur le prochain album, ou sur un prochain album, ou sur une collaboration, sur 5 titres, sur 4 titres, je sais pas. Le format n'est pas encore défini, il faut déjà digérer son Swampy Tales, le promouvoir dans la mesure de ce que l'on peut faire. Mais l'idée, c'est effectivement qu'on puisse, à un moment ou à un autre, travailler main dans la main avec Greg Isor et bénéficier là de son expérience. Parce que il est complètement là-dedans, dans cette esthétique texano-louisianaise. C'est un compositeur extraordinaire, c'est un chanteur remarquable, un guitariste guitariste, c'est pareil, très très convaincant, un harmoniciste, voilà, même plus besoin de le présenter. Mmh. Et il s'est frotté à des gens comme Johnny Sampson, il a appris auprès de gens comme Johnny Sampson, il a bossé pendant 10 ans dans tous les clubs d'Austin. Bah oui, fatalement, on se dit que de pouvoir avoir l'opportunité de travailler avec lui, ce serait un pas en avant encore, bah, un peu dans la continuité de ce que je te disais, finalement, chaque album ou chaque expérience permettant de développer justement une collaboration, une coopération avec une personne différente à chaque fois qui va nous amener son expertise, sa connaissance et puis sa flamme. Voilà, c'est en gestation tout ça, mais ce serait d'aller enregistrer du côté de Madrid.
D'accord, carrément, là-bas, ouais, chez lui. Ouais.
Carrément, ouais. Alors, ce serait pas chez lui, ce serait... Il travaille avec un guitariste qui s'appelle César Crespo.
Oui.
Au sein du groupe qu'ils ont ensemble. Et donc, César Crespo a une maison familiale à une centaine de bornes au nord de Madrid, dans la Sierra. Et ce serait un peu l'idée de se retrouver voilà, dans ces conditions-là.
Voilà, donc ça c'est pour les projets effectivement des Mockingbirds, avec sûrement, j'imagine, Encola. Donc il y a des dates qui vont arriver en juin, en juillet, en août. Est-ce qu'il y a des choses à noter pour nos amis auditeurs? Est-ce que parmi ceux qui veulent vous voir sur scène, il n'y a pas que des dates privées, il y a aussi des, je sais pas, des festivals, des bistrots
Oui, plusieurs dates en fait sympas. Donc on a pas mal de dates là sur la région nantaise au mois de mai, au mois de juin. Et au mois de juillet, on jouera chez les amis Fred et Christophe à la Parquetterie.
Oui.
À Fraisselines dans la Creuse. Donc ça, ce sera le dimanche 20 juillet, ça c'est un lieu absolument fabuleux et voilà.
D'ailleurs, tu parlais tout à l'heure de Jackass and the Jax, ils ont enregistré un live là-bas, hein, je crois.
Exactement. Mm. Donc toutes et tous à la Parquetterie, parce que c'est vraiment un lieu qu'il faut faire vivre et qui est extraordinaire. Et puis à la suite, les 21, 22, 23 juillet, on a l'immense plaisir d'être programmé à MNOP, donc musique de la Nouvelle-Orléans au Périgord.
Ouais, à Périgueux.
Par Stéphane Collin, on jouera sur Périgueux à Athur, à côté de Périgueux. À la banlieue de Périgueux, et puis à côté d'Excideuil, donc à l'est du département. Mmh. Ça, ce sera notre troisième date. Donc ça, c'est vraiment un immense plaisir, une immense concrétisation de pouvoir aller défendre notre swamp blues texano-louisianais sur les scènes du festival qui est quand même la référence en matière de musique louisianaise en...
Eh oui, en France et en
en
Europe.
France et en Europe.
Ouais.
Eh oui.
Et tout ça, c'est des étapes qui attend une tournée américaine avec quelques passages à Nouvelle-Orléans et à Houston et Austin, peut-être. Hein.
C'est ça.
Ouais, c'est en tout cas, voilà, les projets des Mockingbirds, voilà, on vient de les dessiner. Et puis, cet album qu'on accueille avec plaisir dans Sweet Home Chicago, notamment, qui s'appelle Swampy Tales, avec lequel on va conclure cette interview. Mais auparavant, Nicolas, j'ai une toute dernière question. C'est une question ouverte. Qu'est-ce que tu souhaiterais partager avec nos auditeurs? Qu'est-ce que tu aurais à leur dire sur tout sujet, Nicolas?
Bah, concernant la musique, que les gens continuent à venir nombreux écouter de la musique live dans les bars, dans les clubs, dans les festivals. Enfin, dès qu'il y a une opportunité d'en écouter. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse continuer à développer ça, que la place ne soit pas prise par des DJ ou autres, même s'il y a de la place pour tout le monde, mais qu'on ait... c'est vraiment tellement important d'avoir de voir des groupes en live. C'est quelque chose qui me tient à cœur, encore plus particulièrement sur les genres musicaux qui nous intéressent, le blues et de la soul, qui ont besoin de...
Visibilité, peut-être, un peu.
De soutien, qui ont besoin de visibilité, qui ont peut-être aussi besoin, d'un point de vue du public, de se régénérer. Voilà, on a eu l'occasion, tu parlais de la scène nantaise en ouverture, en préambule, on a eu l'occasion, il y a un lieu vraiment extrêmement symbolique sur Nantes qui s'appelle le Zigo Bar, qui est un lieu qui est formidable à tout point de vue et qui est formidable en termes de musique live, notamment avec une programmation ultra éclectique et puis surtout la possibilité de voir des concerts quasiment tous les soirs de la semaine, du mardi au samedi. Et Fabien Vinclair, qui en est propriétaire, qui est absolument vénéré par tous les musiciens sur Nantes, parce que c'est un vrai mélomane et parce que c'est un type en or, a développé un printemps du blues au mois de mars. Quasiment tous les groupes de la scène nantaise y sont passés et on a été vraiment toutes et tous dans les groupes ravis et hyper satisfaits de voir que on voyait pas toujours les mêmes têtes chaque soir de concert, qu'on voyait des têtes qu'on n'avait jamais vues, des jeunes, etc. Et donc ça veut bien dire qu'il y a une place pour la musique live et qu'il y a une appétence des gens et que voilà, il faut permettre à cette musique, à la musique live, de lui laisser toute sa place.
De et perdurer voilà, et de continuer voilà, à faire
perdurer
pousser ses
ailes. Ouais. Contrainte. Ouais. Un petit mot aussi quand même sur un magazine qui nous tient à cœur tous les deux, qui est Soulbag, qui va s'arrêter sur sa forme
papier.
Qui va continuer à exister d'une autre manière. Magazine qui fête cette année ses 57 ans d'existence, qui est remarquable, qui est, je pense, on peut le dire sans le meilleur magazine en la matière, ou l'un des meilleurs magazines en la matière en Europe, et qui, effectivement, est pour beaucoup musiciens, mélomanes, amateurs, éclairés ou moins éclairés, qui est une mine d'informations et qu'on prend plaisir à voir tous les 3 mois, ou qu'on prenait plaisir à voir tous les 3 mois dans notre
boîte. Et qu'on va continuer à prendre plaisir à découvrir tous les 3 mois pour le numéro de juin et le numéro de septembre qui sera le 260e et tout dernier. Et voilà,
absolument.
Soulbag est mort, mais Soulbag continue en version web, Nicolas. C'est ça aussi qu'il faut souligner.
Exactement. Mmh. Et vraiment, en plus, tous les deux, on le sait, pas que tous les deux, tous les collaborateurs Soulbag, on a une gratitude énorme à l'égard de ce magazine, à l'égard de personnes comme Jacques Perrin, comme Christophe Moreau et comme Nicolas Ternier, évidemment,
bien sûr,
le rédacteur en chef actuel, qui sont des gens qui œuvrent de manière magnifique pour faire connaître les musiques qui nous tiennent à cœur. Et Soulbag, gros cœur sur Soulbag.
Merci pour tout ça, Nicolas. Et puis, à très bientôt sur la route du blues, en tout cas. Nous, on continue à écouter les Mockingbirds. Puis, un bon vent, bien sûr, à cet album qui s'appelle Swampy Tales. Salut, Nicolas.
Merci beaucoup, Marc. À très bientôt.
À bientôt.
Merci.
I'm in.
C'était l'interview de Nicolas D avec de multiples extraits, bien sûr, de cet album Swampy Tales des Mockingbirds avec Sparks to Share qu'on a écouté au début, Road Chronicles, Walls, Some Wanderings et puis Jack and Jill Shuffle dont on a écouté également la version originale de 1961 par Theophilus Beckford, 20th Century Boosie Boots sur Swampy Tales toujours et puis également I'm Going Home to See My Mother emprunté au répertoire de Clifton Chenier, Charles Sheffield avec It's Your Voodoo Working et puis ensuite le traitement qu'on a réservé le groupe Mockingbirds dont on a pu écouter également Sparks to Share et It's Your Voodoo Working en extrait et puis également It's Your Voodoo Working en entier par les Mockingbirds et puis un petit extrait d'un concert à Sibaldon Music Festival en 2021 par Greg Isor pour écouter ce que ça donne au niveau harmonica notamment et puis là on vient d'entendre Dedicated Swampy Tales sur l'album Swampy Tales des Mockingbirds. On termine cette émission avec en 2020 l'album Fishbone Juice qui avait été disque de l'année, figurez-vous, le titre Sweet Lies, et il s'agit bien sûr du groupe Do The Do. Ça s'appelle Sweet Lies et c'est extrait de l'album Fishbone Juice que The Do avait sorti en 2020. Il avait été élu disque de l'année pour Sweet Home Chicago. C'est la fin de ce 292e SHC. On se retrouve la semaine prochaine avec deux nouveaux invités. Richard Renaud pour un nouveau numéro de My Rockers. Et puis on va y parler de punk music, mais pas que. Et puis en deuxième heure, ce sera Jean-Christophe Panicot. Avec lui, on reviendra à des choses beaucoup plus tranchées puisqu'il s'agira de Pre-War Blues volume 2, puisqu'on en avait déjà eu l'an dernier avec un petit peu de live en studio, je crois. C'est avec également un certain Joe Caritos. Jean-Christophe Panicot et Joe Caritos en live dans le studio du 666. Salut, bye bye. Come on, baby, don't you make me laugh.